Imaginez un instant un vieux tramway propulsé par un moteur de char de la Seconde Guerre mondiale et il roule juste au-dessus d'une rivière souterraine remplie de haches préhistoriques. Ça fait très scénario de film d'aventure, mais en fait, c'est la réalité d'un petit village belge qui s'appelle Ans-sur-Lesse.
Ouais, c'est clair. C'est vraiment le point de convergence parfait entre la géologie, l'archéologie et l'histoire moderne.
Et c'est exactement la mission de notre plongée en profondeur aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. À partir de sources géologiques et de rapports d'archives, on va essayer de comprendre comment une simple anomalie géologique a pu, au final, façonner la vie de toute une région. Ça pousse vraiment à se demander ce qui, sous nos pieds, dicte secrètement notre économie, non?
Tout à fait. Et toute cette histoire, ben, elle commence vraiment sous terre. Nos sources se penchent d'abord sur la création de ces fameuses grottes via un phénomène assez méconnu, la fantomisation de la roche.
Attends, la fantomisation. Ça sonne comme un concept de science-fiction, ça. La roche disparaît comme un fantôme sans bouger, c'est ça l'idée?
Pas tout à fait disparaître, enfin, l'idée est un peu là. En fait, pendant longtemps, on a cru que les rivières souterraines creusaient la pierre par la simple force de leur courant. Mais la fantomisation, c'est un processus chimique furtif. L'eau s'infiltre super lentement
D'accord.
et elle va dissoudre certains minéraux à l'intérieur de la roche, mais sans altérer son volume initial ni son apparence extérieure, tu vois?
Ah, je suis fascinée. Donc, si je comprends bien, c'est comme si la roche devenait un énorme morceau de sucre pour eux. Ça a l'air solide, mais c'est complètement rongé de l'intérieur. Et après, un gros courant d'eau vient nettoyer tout ça.
Exactement. Le mécanisme est bien celui-là. Ce grand nettoyage interne, du coup, il laisse derrière lui des vides colossaux. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que ces immenses salles obscures, elles ont attiré les peuples du néolithique. Ils n'y vivaient pas, hein, mais ils s'en servaient pour des rituels votifs.
Des rituels, genre, ils jetaient des trucs dans l'eau?
Voilà. En fouillant ces eaux ténébreuses, on a retrouvé des objets d'un prestige fou, notamment des haches polies taillées dans du jade et des roches rarissimes qui venaient carrément des Alpes italiennes.
Mais non, faire venir du jade des Alpes jusqu'en Belgique à la préhistoire, c'est un effort titanesque, pour finalement tout balancer dans l'eau.
Ouais, c'est un effort colossal, quoi. Mais jeter ces objets si précieux dans les abysses, c'était très probablement une façon de communiquer avec les esprits de ce monde souterrain, d'offrir ce qu'il y a de plus rare aux éléments.
C'est fou. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette obsession un peu magique pour la nature, elle ne s'est pas arrêtée au fond des grottes. Elle a littéralement débordé à la surface. On décrit un contraste visuel assez ahurissant dans le village.
Ah oui, le fameux contraste au centre-ville.
Ouais. D'un côté, on a une église moderne, le guichet ultra fréquenté des grottes, et juste à côté, un arbre à clous. C'est une pratique totalement animiste. Quelqu'un a mal aux dents, il frotte un vieux clou sur sa carie et paf, il vient l'enfoncer à coups de marteau dans l'écorce d'un tilleul. Pourquoi un arbre et pourquoi des clous?
Bah, dans ces croyances anciennes, l'arbre agit comme un réceptacle vivant. Si on relie cela à la situation dans son ensemble, le clou transfère littéralement la douleur vers l'arbre qui est censé l'absorber.
Incroyable!
Et ce qui est remarquable, c'est la survie de cette pratique aujourd'hui. Ça illustre vraiment la résilience du tissu rural face au tourisme de masse. On le voit aussi avec des rituels comme le grand feu, une immense effigie qu'on brûle à la fin de l'hiver pour purifier la terre.
Sauf que ce tourisme de masse, au final, il a créé de nouveaux besoins. L'attrait des grottes a fait exploser le nombre de visiteurs. Il a fallu une nouvelle infrastructure pour transporter tout ce monde. Et alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? On en arrive à ce fameux tramway historique, dont les autorails tournent avec des moteurs de char Sherman récupérés de la guerre.
C'est ça. Le tramway, c'est l'enfant direct de la géologie locale. Sans les grottes, pas de touristes, et sans touristes, pas de tramway pour irriguer l'économie du village et relier les commerces.
Mais là, nos documents pointent une menace complètement paradoxale. Ce tramway vital risque la fermeture définitive en 2026, à cause d'un litige administratif. Comment une dispute de papier peut menacer ce qui fait vivre le village?
Ça soulève une question importante, c'est sûr. C'est un pur imbroglio bureaucratique sur la propriété des terrains et des rails. L'ironie est hyper cruelle. Ans-sur-Lesse réussit l'exploit de réintroduire des bisons d'Europe dans son parc, mais la bureaucratie se montre incapable de sauver la ligne de transport qui maintient ses artisans en vie.
Bah, ça prouve bien que notre aménagement du territoire et notre économie restent entièrement suspendus à ces héritages géologiques invisibles. Ce qui nous laisse avec une sacrée pensée pour terminer. Si des archéologues du futur devaient fouiller les eaux sombres de la Lesse dans 1000 ans, y trouveraient-ils toujours ces haches en jade ou bien les restes rouillés d'un tramway sacrifié aux divinités de la bureaucratie moderne?